Pour commencer le sermon, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, allons au psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Celui qui veille sur nous quotidiennement, qui pourvoit pour nous chaque jour, le Dieu de notre salut, qui veille sur nous à tous les jours, le Dieu qui nous délivre. Et allons au psaume 103. Psaume 103. Et il y a une phrase ici qui est similaire. Et une note pour nous. Psaume 103, versets 1 à 5, et nous allons nous concentrer sur un aspect particulier dans un moment. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, on chante ça comme cantique. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et je n'irai pas plus loin, mais si vous lisez jusqu'au verset 18, il y a une série de bénédictions ou de bienfaits que Dieu nous donne. Et pour commencer le sermon, je voudrais revenir et me concentrer sur l'un d'eux. Au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et nous pouvons penser à toutes les choses que Dieu fait pour nous et qui sont rapportées dans ces versets 1 à 18. Et il en énumère un bon nombre. Nous parlons de la protection et de la sécurité que Dieu nous procure. Nous avons de la nourriture, nous avons un abri. Dieu pourvoit ces choses physiques dont nous avons besoin. Nous regardons autour de nous et nous avons des amis, des frères, des personnes qui nous sont proches. Et bien sûr, nous ouvrons notre Bible parce que nous comprenons ce livre que Dieu nous a donné comme mode de vie. Et c'est un privilège de comprendre cela et c'est l'un de ses grands bienfaits. Bien sûr, cette compréhension qu'il nous donne est une question spirituelle. Une certaine de nos bénédictions sont physiques et d'autres sont spirituelles. Et dans le cas particulier de la guérison, dont j'aimerais parler aujourd'hui, elle est physique, mais elle comporte certainement des connotations spirituelles, des éléments spirituels. La guérison est l'un des grands bénéfices que Dieu nous accorde en tant que son peuple. La promesse d'être notre guérisseur. Ainsi, dans le sermon cet après-midi, je voudrais expliquer le sujet de la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que cela signifie d'être guéri? Qu'est-ce que nous permet d'être guéri? Y a-t-il des conditions? Y a-t-il des préalables pour que nous puissions être guéris? Comment s'accomplit la guérison? Et est-ce si important que cela? Est-ce une partie importante de l'œuvre, une partie du christianisme? Ce sont des choses que nous examinerons durant le sermon aujourd'hui. Répondons d'abord à la première question. Qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que cela signifie? La définition du dictionnaire est la suivante. Faire en sorte qu'une plaie, une blessure ou une personne malade redevienne saine et en bonne santé. Il ne s'agit que d'une question physique et de guérir une maladie. Mais pour nous, ce terme a une signification beaucoup plus riche et profonde. La version biblique que j'ai rédigée est la suivante. La guérison est l'intervention directe de Dieu dans notre bien-être, dans notre santé, de manière miraculeuse. J'espère que nous réalisons que lorsque nous demandons une onction, que nous demandons à Dieu de nous guérir, nous demandons un miracle. Nous demandons à Dieu de changer quelque chose tel qu'il existe actuellement dans notre corps à un statut différent, de changer quelque chose qui ne fonctionne pas de la manière dont il l'a conçu, pour que cela fonctionne de la manière dont il l'a conçu. Vous demandez à Dieu d'accomplir un miracle dans notre vie. Il nous dit dans Deutéronome 32, verset 39, vous pouvez simplement le noter, Deutéronome 32, verset 39, Dieu nous affirme, « Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Il précise ensuite, « Je blesse. » Cela signifie que parfois il punit, il y a des nations, des gens, des individus que Dieu a blessés, a punis. Mais il dit aussi, « Je guéris. » Dieu est notre guérisseur. Nous devons agir et prendre soin de nous-mêmes, mais lorsque quelque chose dans notre corps ne fonctionne pas comme il le devrait, Dieu est notre guérisseur. J'en viens aux exemples de l'Ancien Testament, et je m'y référais simplement parce que ce sont des exemples familiers. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des récits très spécifiques où Dieu est miraculeusement intervenu pour changer le corps de quelqu'un, comment il fonctionnait, pour arranger ce qui n'allait pas. Allons en Nombre 12, Nombre 12, versets 10 à 13, Nombre 12, versets 10 à 13. Il s'agit du récit où, après que Marie et Aaron se soient plaints de l'autorité de Moïse sur eux, Marie est devenue lépreuse. Et nous trouvons ensuite l'exemple au verset 13 où Moïse a prié et a demandé à Dieu de la guérir immédiatement. Dieu est intervenu, il a enlevé la lèpre. Elle a dû sortir du camp pendant 7 jours, mais Dieu est intervenu dans ce cas particulier et a enlevé la blessure, la malédiction en fait, qui l'avait rendue lépreuse. Vous trouvez aussi dans 2 Rois 5, versets 13 à 15, 2 Rois 5, 13 à 15, le récit de Naaman venant voir Élisée pour être guéri. Élisée était connu comme quelqu'un qui pouvait faire cela. Il s'y rend donc, puis Élisée lui dit de se plonger 7 fois dans le Jourdain pour que sa lèpre disparaisse. Et au début, Naaman se plaint de la méthode, mais il se dit, pourquoi ne pas l'essayer? Cet homme est un homme de Dieu. Puis, il est dit qu'après avoir fait exactement ce qu'Élisée lui a dit de faire, la lèpre est disparue et Naaman revint et dit à Élisée, « Je sais maintenant que tu es un serviteur de Dieu. » Dans 1 Rois 17, nous trouvons un récit au sujet d'Élie. Il est dit d'aller et de loger chez une veuve, et dans les versets 17 à 24, 1 Rois 17, 17 à 24. Pendant qu'il loge chez la veuve et qu'il fait son travail, le fils de la veuve meurt. Elle se plaint, bien sûr. Pourquoi aurait-il permis que cela arrive ou pourquoi cela devrait-il arriver? Et Dieu utilise alors Élie pour qu'il prie pour le fils. Et Dieu intervient et restaure la vie du jeune garçon. Dieu a clairement le pouvoir de faire cela. Dans les 3 cas, Moïse prie pour sa sœur, Élisée est utilisée pour expliquer à Naaman comment la guérison peut avoir lieu. Et Élie est utilisée par Dieu pour rendre la vie au jeune garçon. Ces 3 exemples nous montre une chose essentielle à comprendre. Dieu agit par l'intermédiaire d'êtres humains. Il travaille à travers ses serviteurs choisis afin d'accomplir son œuvre. Maintenant, cela exclut-il que Dieu soit capable de faire des choses indépendamment des hommes? Bien sûr que non. Dieu peut le faire en bénissant et en intervenant dans la vie des gens, Il peut le faire sans les hommes, sans les serviteurs humains, mais dans l'ensemble, dans ce que nous savons être la sphère de Dieu dans l'Église, il travaille à travers ses serviteurs, et il l'a fait non seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi au temps de l'Ancien Testament. Il a travaillé à travers Moïse, à travers Samuel, avec David, et les prophètes également. Alors, qu'en est-il du Nouveau Testament? Vous y trouvez les exemples de l'importance que revêt la guérison. Alors, allons à Matthieu 4. Matthieu 4. Je passerai un peu plus de temps à discuter certains de ces récits, mais je veux aussi m'assurer d'avoir assez de temps pour parler de la logistique, si vous voulez, de la façon dont nous demandons une onction et la façon dont nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos vies sur une base physique au niveau de la guérison. Dans Matthieu 4, versets 17 à 24. Matthieu 4, versets 17 à 24. Nous sommes tout juste après que le Christ eut été tenté par Satan et qu'il se soit qualifié pour le remplacer. Il a résisté à toutes ses tentations et il continue à accomplir et à mener à bien son ministère. Et au verset 17, il les dit, « Et dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et vous trouvez au verset 18 à 22 qu'il sort et appelle plusieurs de ses disciples. Puis au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Maintenant, dans ces versets, aucun chiffre n'est jamais donné, mais les récits montrent clairement que le Christ a guéri beaucoup, beaucoup de gens, de nombreuses maladies différentes. Et qu'il a chassé des démons à maintes reprises. L'exemple qu'il a donné et l'influence qu'il a eue sur les personnes avec lesquelles il est entré en contact ont dû impressionner les êtres humains. Alors qu'il voyait ce genre de puissance se manifester encore et encore. Et l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit, bien sûr, est que le Christ était en train d'établir qui il était. Il a enseigné qu'il était le Fils de Dieu, et il l'a démontré. Dieu le Père l'a soutenu par les choses qu'il était capable de faire, ainsi que par les choses qu'il était capable d'enseigner. Il enseignait aux gens qu'ils devaient se repentir. Il prêchait également que de servir Dieu signifiait obéir aux commandements, et il prenait aussi soin de son peuple. Nous lisons ensuite au verset 23 qu'il sort, qu'il enseigne, qu'il va dans les synagogues et dans divers endroits de Galilée et partout où il va, et il guérit, il fait des miracles, il change la vie des gens physiquement et spirituellement par son enseignement. Allons à Matthieu 9. Matthieu 9, verset 18. Matthieu 9, verset 18. Matthieu 9, verset 18. Nous allons commencer ici au milieu de l'histoire. Et tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Donc, ce que le Christ était capable de faire et avait fait a évidemment influencé les gens à penser, quand j'ai un problème, quand j'ai une maladie grave, je peux aller voir Jésus-Christ. Continuons au verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante et leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Et quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Ainsi, il a ramené une personne morte à la vie et montre le genre de puissance qu'il a, non seulement pour accomplir des miracles où les maladies des gens disparaissent, mais aussi pour réellement redonner la vie à quelqu'un. Et il s'agit ici d'une partie importante de son ministère. Quelle est la pertinence de ce que Dieu fait avec l'humanité? Verset 35. Et le Christ poursuit. Et Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Quelles que soient les plaintes, quelles que soient les réalités physiques pour des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes, le Christ était là, intervenant afin de montrer qui il était. C'était clairement une question de compassion pour beaucoup des gens qui n'étaient pas appelés à ce moment-là. Peut-être ne comprenait-il pas toutes les choses que vous et moi comprenons aujourd'hui, mais parce qu'ils étaient son peuple, ils étaient sa création. Jésus-Christ avait beaucoup de compassion pour eux. Reportez-vous à Marc 6. Marc 6. Le Christ avait cette responsabilité et a accompli ce devoir. Dans Marc 6, et le verset 7, nous trouvons le récit où il donne maintenant cette puissance à ses serviteurs. Marc 6, verset 7. Verset 7, « Alors il appela les 12, et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Maintenant, souvenez-vous qu'à ce stade, ils ne sont que des disciples, ils ne sont pas apôtres. C'est bien avant le jour de la Pentecôte. Mais parce que le Christ était Dieu dans la chair, il avait certainement le droit et la capacité de donner ce genre de puissance à ses serviteurs. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils avaient appris, ils avaient suivi l'exemple et les œuvres de Jésus-Christ, et ils savaient que leur travail consistait à faire les mêmes choses que le Christ lui-même avait fait. Donc, verset 12, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. » Verset 13, « Ils chassaient beaucoup de démons, et ils soignaient d'huile beaucoup de malades, et ils les guérissaient. » Dans ce récit, nous voyons que, jusqu'à présent, c'est la première fois où l'huile est mentionnée. « Ils soignirent d'huile beaucoup de malades, et ils les guérirent. » Lorsqu'il est dit « ils les ont guéris » ici, nous comprenons que ce n'était pas littéralement eux. Les disciples ne guérissaient pas les gens, mais ils étaient des instruments à travers lesquels Dieu agissait, et c'est Dieu qui guérissait. Dieu est notre guérisseur, il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse faire les choses que notre grand Créateur peut faire. Ces récits nous parlent de prêcher l'Évangile, de faire l'œuvre, mais aussi de l'accès que nous avons à la guérison. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas les choses de la même manière. Nous n'allons pas prêcher l'Évangile dans des synagogues, des églises ou des bâtiments, et nous n'organisons pas des cérémonies de guérison. Peut-être cette puissance viendra-t-elle au bon moment, de la bonne manière, avant la fin, nous verrons. Mais cela montre que la guérison est une partie importante de l'œuvre de Dieu et une partie importante de nos vies. Nous savons que vous et moi pouvons aller vers Dieu et lui demander d'intervenir lorsque nous avons des problèmes physiques, peu importe leur nature. Il a guéri toutes les maladies, peu importe lesquelles. Nous le savons tous, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Alors, y a-t-il une partie de sa création dans nos corps? Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse réparer? Bien sûr que non. Dieu peut s'occuper de toutes ces choses qui nous arrivent. Si cela fait partie de son plan et de sa volonté, nous y reviendrons dans un instant. Mais la manière dont la guérison avait lieu à cette époque était une preuve positive que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il devait attester de sa divinité, qu'il était là pour servir et devenir le Messie et démontrer son identité. C'était aussi une occasion pour lui de montrer sa grande compassion pour les gens. Il s'agissait d'individus, peut-être même quelques-uns d'entre eux auraient pu être ceux qui ont réclamé sa crucifixion 2 ou 3 ans plus tard. Nous ne le savons pas. Mais Dieu est intervenu. Le Christ est intervenu et il s'est occupé d'eux. Une grande puissance fut déployée. Et lorsque nous lisons ces récits, j'espère que cela nous donne la confiance et la pleine conscience de la sorte de puissance que nous demandons à Dieu d'exercer dans nos vies. Chaque fois que nous demandons à être oint, nous prions pour qu'il intervienne directement dans nos vies et nous guérisse. Qu'est-ce qui rend la guérison possible? Comment cela fonctionne-t-il? Revenons en arrière et notons ce qui est dit dans Deutéronome 32, verset 39. Dans Deutéronome 32, verset 39, pour vos notes, c'est Dieu qui guérit. C'est la première chose que nous devons demander. Nous devons toujours nous rappeler que les êtres humains ne sont que des instruments. Nous sommes des outils, si vous voulez, par lequel Dieu peut agir, mais c'est Dieu qui guérit. Reportez-vous à 1 Pierre 2. Je me rends compte qu'il s'agit d'écritures familières, mais elles sont présentes dans ce sermon pour une raison. Nous devons comprendre certaines choses. J'espère que c'est un bon rappel du genre de détails que Dieu nous donne ici. 1 Pierre 2, versets 22-24. 1 Pierre 2, 22 à 24. Parlant du Christ ici au verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, il s'agit d'un rappel que le Christ était parfait en tout point, il n'a commis aucun péché, il n'a même pas dit quelque chose de mal. Si nous y réfléchissons, nous pouvons peut-être le réaliser davantage. Nous savons que les Écritures nous disent que la langue est aussi un feu, un monde de l'iniquité, et que le Christ n'a jamais dit une seule chose de mal. Il n'a jamais eu de tromperie dans sa bouche. Puis au verset 23, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Le Christ a réalisé que ce serait au bon moment et de la bonne manière que le Père nous demanderait des comptes, et qu'il serait lui-même impliqué dans ce jugement le moment venu. Mais ce n'était pas le moment d'intervenir, et il n'a pas répondu à ceux qui le critiquaient, le condamnaient, cherchaient même à le tuer, et qui ont fini par le faire. Par contre, il est écrit au verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, nous savons que le Christ a versé son sang pour nous, c'est ainsi que nous avons accès au pardon de nos péchés et au salut éventuellement. » Verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Maintenant, il y a ceux qui lisent ceci et pensent que cette phrase particulière indique que la souffrance physique du Christ faisait partie du pardon de nos péchés. Et c'est valable. Le sacrifice du Christ était un sacrifice complet et entier. Mais c'était bien plus que cela. Ce n'était pas seulement une question d'être notre sauveur. Quand il est passé par ce genre de souffrance qu'il a subi, il a dit aussi très clairement, « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Et cela indique que nous avons accès à la guérison physique. Retournons à ce qui est écrit, cité ici, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, nous lirons les versets 3 à 5. Ésaïe 53, 3 à 5. C'est une prophétie au sujet du Christ. C'est quelque chose de connu et cité dans le Nouveau Testament. Ésaïe 53, versets 3 à 5. méprisé et abandonné des hommes, référence à celui qui deviendrait le Christ, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne, la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc les mots ici parlent de douleur, de souffrance, mais ces mots peuvent aussi être traduits par maladie et douleur, des afflictions physiques. Ces maladies peuvent nous être enlevées, comme il est dit ici au verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En soulignant que c'est par les souffrances physiques que Christ a enduré, bien plus que vous et moi ne pouvons le comprendre, franchement, que nous sommes guéris. La Bible nous dit, tant son visage était défiguré, quelle était exactement la profondeur de ses blessures et combien de souffrances le Christ a-t-il enduré? Nous pouvons essayer de l'imaginer, mais puisqu'il a été défiguré plus qu'aucun homme, il a évidemment grandement souffert. Par cette torture physique, par cette agonie, par les douleurs qu'il a traversées, il devenait l'instrument par lequel vous et moi avons accès à la guérison de nos maladies, nos blessures et nos souffrances. Vous savez, parfois nous nous sentons mal, mais Dieu a conçu notre corps de telle sorte qu'avec du repos et des soins appropriés, en faisant les choses comme il faut, nous nous rétablissons. La maladie peut parfois disparaître. En fait, vous et moi, à l'occasion, avons dit « Je ne me sens pas bien, mais on n'appelle pas un ministre pour être loin. » Nous attendons et nous attendons pour voir à quel point nous sommes vraiment malades. Nous avons tous notre propre barème pour cela. À quel moment sommes-nous suffisamment malades pour demander d'être loin? Où se situe ce seuil? Ce seuil n'est pas le sujet du sermon, il varie pour chacun de nous. Cependant, quel que soit le problème, le sacrifice de Jésus-Christ était clairement assez grand pour permettre à des centaines de personnes, lorsque vous lisez ces récits, ce qu'il a fait dans son ministère, des centaines, voire des milliers de personnes d'être guéries miraculeusement. Et depuis les 2 millénaires d'existence de l'Église, Dieu a guéri. Nous sommes environ 200 personnes ici. Si nous devions compter combien de fois l'un d'entre nous a été guéri, cela ferait des milliers, j'en suis sûr. Si nous sommes dans l'Église depuis assez longtemps, certains d'entre nous peuvent regarder en arrière et dire avoir été guéri des dizaines et des dizaines de fois. Le sacrifice physique du Christ était suffisant pour rendre la guérison disponible à ceux à qui ce sacrifice allait être appliqué. Là encore, il y a de ceux qui sont pas aussi dogmatiques sur ce fait que les meurtrissures du Christ sont là pour que nous soyons guéris. Reportons-nous à Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Nous trouvons ici une confirmation définitive, à savoir que nous avons accès à la guérison à raison des souffrances endurées par le Christ. Verset 16. Au milieu de l'histoire, le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, juste par sa puissance. Il avait l'autorité sur les démons. et il guérit tous les malades. Ainsi, parfois les maladies étaient dues à des possessions d'un démon. D'autres fois, elles étaient simplement physiques, mais il les guérissait quand même. Matthieu 8, verset 17, « Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été énoncé par Isaïe le prophète, que nous venons de lire, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Ainsi, le sacrifice physique de Jésus-Christ est le moyen par lequel nous avons accès à la guérison. Vous et moi répétons cela chaque année lors de la Pâque. Reportons-nous à 1 Corinthiens 11. Quand nous demandons à être oint, quand nous demandons à Dieu de nous guérir, nous lui demandons d'appliquer ce sacrifice en notre faveur. De faire quelque chose de miraculeux. Vous savez, parfois je pense, et en évaluant même ma propre vie, à quel point nous prenons cela à la légère. On peut être en train d'être oint et ne pas penser à ce qui est dit ici au verset 23 et 24. 1 Corinthiens 11, 23-24. Paul écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. Comme je l'ai dit précédemment, oui, ce corps brisé fait partie du sacrifice total du Christ. Chaque fois que vous et moi demandons à Dieu de nous guérir, nous lui demandons de prendre ce sacrifice physique que le Christ a fait et de l'appliquer à notre bien-être. Nous lui demandons d'honorer le sacrifice que le Christ a fait en notre nom. C'est une chose qui donne à réfléchir. C'est l'une des grandes bénédictions à laquelle vous et moi avons accès. Et j'espère que nous l'apprécions. Dieu a planifié tout cela. Parce qu'en concevant notre corps et son fonctionnement, il savait que tôt ou tard, nous nous casserions quelque chose. Nous ferions quelque chose qui nous rendrait malades ou nous blesserait. Nous sommes négligents. Nous ne dormons pas assez, nous mangeons peut-être les mauvais aliments ou nous mangeons trop de bons aliments. Toutes sortes de raisons expliquent nos afflictions physiques. Après toutes ces années et ces millénaires depuis Adam et Ève, certaines choses concernant nos corps ne sont pas tout simplement comme au moment de la création. Les choses sont différentes. Nos corps ne fonctionnent plus aussi bien. Nous héritons de problèmes d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu dit qu'il s'occupera de ces choses. Il interviendra pour nous si nous nous tournons vers lui. Donc, y a-t-il des conditions, y a-t-il des prérequis pour que Dieu intervienne, pour qu'il applique les meurtrissures du Christ en notre faveur? Remarquons ici dans 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. Et j'y ai fait référence en parcourant les versets 23 et 24. Mais Paul nous dit ici, au verset 28 et 29, que chacun donc s'éprouve, s'examine soi-même. Il s'agit ici de la Pâque en général. Mais pensons-y spécifiquement en termes de guérison. Que chacun donc s'éprouve, s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors que nous prenons le pain de la Pâque, examinons-nous nous-mêmes, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Ainsi, nous devons nous assurer que nous nous examinons même lorsque nous demandons à être oint. Cela vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à ces choses. Et quand nous ne le faisons pas, il y a des problèmes. Comme certainement le cas ici à Corinthe, Il y avait de nombreux problèmes, des problèmes très sérieux au sein de l'Église, et à ce moment-là, comme l'apôtre Paul le dit au verset 30, 1 Corinthiens 11, verset 30, c'est pour cela, parce qu'il ne discernait pas toujours ce que signifiait le sacrifice du Christ, non seulement le sang versé, mais aussi le corps brisé, représenté par le pain, qu'il y avait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ainsi, parmi ces individus de l'Église de Corinthe, un bon nombre étaient morts parce qu'ils n'avaient pas discerné cela correctement. On nous enseigne, à vous et à moi, de discerner ces choses correctement, minutieusement, soigneusement, et je suis convaincu que la plupart d'entre nous, en reconnaissant le sérieux, nous le faisons très soigneusement. Reportons-nous à Matthieu 9. Nous regarderons quelles sont les exigences. Matthieu 9, versets 27 à 29. Nous étions ici un instant à propos d'un autre sujet. Matthieu 9, 27. Matthieu 9, 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux, en disant « Qu'il en soit fait selon votre foi. » Nous pouvons voir clairement ici que la foi est une condition préalable. C'est une condition pour que vous et moi soyons guéris quand nous demandons à être oints. Nous devons venir devant Dieu avec foi. Et je n'ai aucun doute qu'il n'y ait personne ici qui doute que Dieu peut guérir. Dieu peut guérir. Il peut enlever les afflictions mineures et il peut enlever les afflictions mortelles. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience dans nos vies et dans celles de nos familles. Peu importe de quoi il s'agisse, il peut le faire. Et ici, les aveugles avaient entendu les histoires qui avaient été racontées au sujet du Christ et ils demandent « Peux-tu faire cela pour nous? » Et la question était, « Aie pitié de nous, montre-nous ta compassion, montre-nous ton amour. » Et il dit, « Selon votre foi, est-ce que vous croyez? » Et c'est ainsi que nous devons demander à Dieu d'intervenir. Nous devons nous poser la même question. Sommes-nous confiants que Dieu peut faire cela en son temps, à sa manière? Maintenant, j'ose dire que lorsque n'importe qui d'entre nous ici veut être oint et que nous voulons que Dieu nous guérisse, nous le voulons maintenant. Nous voulons que Dieu intervienne le plus rapidement possible, en quelques secondes. Et parfois, cela arrive. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard qui explique pourquoi les choses se passent parfois ainsi. Mais il s'agit de croire et d'avoir la foi que Dieu peut nous guérir. Reportons-nous à Matthieu 15, versets 21-22. Matthieu 15, 21-22. Nous avons ici l'exemple de la femme cananéenne. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Elle demande au Christ de chasser ce démon. Nous comprenons qu'il y avait une raison pour laquelle le Christ n'intervenait pas immédiatement. Et c'était parce qu'il y avait été envoyé au peuple d'Israël. Mais il répond au verset 24, « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est une déclaration qui est très, très forte. Pourquoi prendrais-je quelque chose qui est destiné au peuple choisi, les Juifs, pour le donner aux chiens? Et au verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle n'a pas été offensée par ce que le Christ a dit. Elle a été humble face à ce que le Christ a dit. Et elle a transformé cela, si vous voulez, en sa propre réponse. Oui, ce n'est pas la façon dont cela fonctionne normalement, mais Seigneur, aie pitié de moi. Ce n'est peut-être pas la façon dont cela fonctionne normalement, mais s'il vous plaît, comprends combien cette demande est désespérée et combien elle est nécessaire. Elle était très humble. Et Jésus lui dit, au verset 28, « Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. » Il n'y a aucune raison de penser qu'elle comprenait tout ce qu'il fallait faire pour être chrétien. Elle voulait simplement que celui qui pouvait faire sortir le démon de son enfant le fasse. Elle était désespérée. Mais elle avait la foi nécessaire pour faire cette chose miraculeuse, pour que cette chose miraculeuse puisse se produire, que le Christ puisse le faire. C'est une histoire assez étonnante. Il serait embarrassant d'être en quelque sorte rejeté au départ, et pourtant, parce qu'elle croyait qu'il pouvait faire ce miracle, elle le reconnut comme le Seigneur. Puis le Christ dit, « Ta foi est grande. » Donc, je vais sortir de la norme, je vais sortir de la structure principale de ma mission, et je vais faire ceci. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu guérit ou non ceux qui ne sont pas dans son Église lorsqu'il prie? Dans le passé, dans l'Église universelle de Dieu, je travaillais dans le département du courrier. Il y avait des individus qui appelaient ou écrivaient et demandaient à être oints. Et comme nous allons le voir dans quelques minutes, un linge oint leur était envoyé. Beaucoup de ces personnes, j'en suis sûr, ne sont jamais venues à l'Église. Dieu ne les a pas appelées directement. Mais nous savons aussi par les récits, par ce que les personnes ont dit, que les gens ont été guéris parce qu'ils avaient la foi et que Dieu a choisi d'avoir envers ces personnes le même genre de compassion et de miséricorde que le Christ a manifesté pendant son ministère. Il est donc sorti de la norme. En matière de foi, c'est très important. Retournons à Matthieu 9. Matthieu 9. Versets 1 et 2, pour commencer. Versets 1 et 2 et 7. Matthieu 9, 1. Jésus était monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et au verset 7, il dit ici, « Et il se leva, et il s'en alla dans sa maison. » Parfois, nos maladies sont dues à nos péchés. Certaines choses spirituelles, certaines choses physiques que nous faisons, qui ne sont pas appropriées pour maintenir une bonne santé. Le Christ a dit que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et quand les péchés sont pardonnés, nous sommes guéris. La sanction de ce que vous avez fait disparaît. Si l'un d'entre vous a fait quelque chose de mal, et cela a entraîné une affliction, une maladie, une blessure, alors nous pouvons être pardonnés pour cela, et c'est le moyen par lequel nous sommes guéris, en supposant que nous ayons la foi, parce que la foi a également un rôle à jouer. La foi est requise. Et dans le cas de péché que nous avons commis, nous devons nous repentir et nous pouvons être pardonnés. Allons à Jean chapitre 5. « C'est une écriture que nous avons lue et mise en pratique de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois. Jacques 5, verset 13 à 15. Où se trouve le seuil de tolérance dans une maladie, dans des douleurs ou des blessures? Ce seuil qui nous fait demander à être oint varie. Mais il est écrit ici au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il y a des choses dans nos vies que nous devons changer. Ce sont simplement des questions de vie chrétienne, des difficultés, des défis. Nous prions à ce sujet. Verset 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il y a beaucoup d'informations importantes dans ces trois versets. Il nous dit que si nous sommes malades, nous devons demander une onction à un ministre. Franchement, ça devrait être la première chose que nous faisons. Nous sommes malades? Quelle est la réaction? Nous appelons le ministre pour être oint. Nous demandons à Dieu d'intervenir officiellement. Nous demandons formellement à ceux qui nous guérissent. C'est la première chose que nous devrions faire. Puis il nous dit que nous sommes oint avec de l'huile et au nom de Jésus-Christ. C'est au nom par l'autorité de Jésus-Christ que cela doit se faire. Encore une fois, ce n'est pas l'homme qui guérit. On utilise l'huile, mais ce n'est pas l'huile qui guérit. L'huile est un symbole, simplement un symbole, un moyen. L'homme est simplement un instrument. Les mains de cet homme ne sont pas spéciales. Mes mains ne sont pas spéciales. N'importe quelle main des ministres sont seulement des mains humaines. Mais ce sont les mains que Dieu utilise. Et ce qui est important ici, c'est de demander une onction. Ensuite, il est écrit au verset 15, « Et la prière de la foi sauvera le malade. » Que nous venions à Dieu dans la foi. C'est notre foi, ma foi. La foi du ou des ministres qui font l'onction. Vous savez, s'il y en a plus qu'un, c'est bon. Mais la foi de l'individu qui reçoit l'onction, ainsi que la foi des ministres qui font l'onction, croyant que Dieu peut intervenir et interviendra en son temps et en sa manière. Et il nous dit encore ici au verset 15, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Quand la personne est pardonnée, elle sera guérie. Donc, nous devons nous demander, selon les circonstances, « Pourquoi suis-je malade? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Comment ai-je pu me retrouver ici, dans ce lit, avec de la fièvre, avec des douleurs? Ai-je fait quelque chose pour provoquer cela? » Nous devons examiner soigneusement dans notre esprit, dans notre vie, et nous repentir en conséquence devant Dieu. Si un péché fut commis, nous devons nous repentir, cela fait partie de la guérison. Donc, si nous sommes malades, nous devrions demander une onction. Et, vous savez, si un traitement médical est nécessaire, et cela peut être évident, prenons-le. Il ne s'agit pas d'un sermon contre la médecine, contre les médecins. Il s'agit de trouver le bon équilibre sur ces questions. Nous allons en discuter un peu plus dans un moment. Mais si un traitement médical est nécessaire, faites cela après avoir demandé une onction. Vous savez, la rapidité avec laquelle vous êtes oint n'a pas d'importance. Demandez. Puis si vous avez besoin, si c'est vraiment urgent, vous allez chercher des soins médicaux, ce qui est approprié. Parce que vous avez fait la demande, Dieu n'a pas besoin de l'huile pour agir. Il n'a pas besoin des mains d'un ministre pour que la guérison ait lieu. Ce que Dieu veut savoir, c'est si oui ou non nous allons mettre nos vies, notre bien-être physique entre ses mains, et si, quoi qu'il arrive, nous savons que Dieu est en charge. S'il s'agit d'une urgence, si c'est vraiment une urgence, un accident de voiture, des os cassés, et que vous ayez besoin de soins médicaux immédiatement, alors allez-y, et demander l'onction dès que c'est faisable, dès que c'est possible. Une des choses que je voudrais mentionner, c'est qu'en termes généraux, nous ne devrions jamais laisser Dieu en dehors du tableau. C'est une phrase que M. Meredith a utilisée dans la brochure à laquelle je vais me référer dans un instant. Dieu guérit-il de nos jours? Ne laissez jamais Dieu hors du tableau. Il est celui qui peut intervenir, quel que soit le problème. Nous recevons aussi des demandes pour des prières par la congrégation. La demande dit, pouvez-vous demander à la congrégation de prier pour quelque chose, quel que soit le problème? À ce moment-là, ils ne m'ont pas demandé une onction, mais ils veulent que la congrégation prie à ce sujet. Et pour ce que ça vaut, frères et sœurs, je vous dirai ceci, et plusieurs ministres disent la même chose. Nous devrions demander à Dieu en premier. Dieu est celui qui guérit. Et nous devrions aller vers lui personnellement, et demander à être oint. Ensuite, selon la nature et la gravité du problème, nous pouvons demander à la congrégation de prier à ce sujet. Souvent, les gens appellent et discutent de leur situation, mais ne demandent rien. Je pose parfois la question, voulez-vous être oint? Et parfois, la réaction est, oui! La première réaction n'était pas de demander à être oint. La première réaction était, demandons à tout le monde de prier à ce sujet. Il n'y a rien de mal de demander à la congrégation de prier à ce sujet, mais seulement si on demande à Dieu d'abord. Et ensuite, en fonction de la gravité de la situation, nous allons demander à la congrégation de prier. Franchement, tout n'est pas d'une ampleur ou d'un enjeu suffisamment important pour demander à toute l'assemblée de prier. C'est à la discrétion de chacun. Nous pouvons en discuter. Nous savons que toutes les choses ne sont pas vraiment sérieuses et qu'il s'agit d'un simple mal de ventre. Ce sont deux niveaux différents, mais nous devons demander d'abord à Dieu d'intervenir. Où les gens demandent-ils des prières lorsqu'ils sont malades? Oh, en passant, je suis heureux que M. Desimone n'a pas demandé combien d'entre nous savaient ce qu'était TikTok. J'en avais entendu parler, mais c'est un des médias sociaux. Mais où les gens font-ils des demandes de prières? Ils vont sur Facebook en premier. Ils vont sur Instagram en premier. Non, il faut que ce soit Dieu qui soit en premier. Nous devrions demander à Dieu et ensuite mettre quelque chose sur les médias sociaux. La première réaction que nous devrions avoir, si nous sommes malades, c'est de demander à Dieu de prendre soin de nous, le mettre en premier, l'inclure d'abord et avant tout. Nous avons un exemple auquel je vais faire référence. M. Meredith y fait référence dans la brochure, au sujet de ce qui se passe si on ne tient pas compte de Dieu. Cet exemple se trouve dans 2 Chroniques 16. 2 Chroniques 16, verset 12. Ici, il est question d'Essa qui ne consulta pas Dieu. Il consulta les médecins et il finit par mourir. Ce n'est qu'un seul exemple de combien il est important de mettre Dieu en premier dans nos vies. Apparemment, il n'est jamais allé voir Dieu. Il était seulement allé voir les médecins. Et certes, obtenir l'attention médicale appropriée est quelque chose que nous devrions faire, mais nous devons mettre cela dans la bonne perspective et faire les choses de la bonne manière. Revenons maintenant au livre des Actes, Actes 19. Acte 19. Et c'est l'un des endroits où le Christ a utilisé Paul pour expliquer un peu de la vérité qui n'était pas connue avant ça. Acte 19, versets 11 et 12. Acte 19, versets 11 et 12. Lorsque nous lisons ceci, nous sommes tout heureux de ce que Dieu nous a montré quelque chose ici au sujet de l'onction et comment cela peut fonctionner quand le ministre n'est pas vraiment à portée de main et qu'il y a une alternative. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous devons demander à Dieu d'accomplir un miracle. Et Paul fit cela. Il exerçait cette responsabilité. Il faisait ce devoir. Verset 11. Au point qu'il appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient sur son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Et nous utilisons ces écritures comme support biblique pour expliquer pourquoi nous utilisons des linges joints. Il n'est pas dit ici qu'il y a de l'huile, mais lisons ce qui était dit dans Jacques au sujet de l'huile pour des onctions, et donc la pratique de l'Église est de prendre un petit carré de tissu avec une touche d'huile, et nous le mettons dans une enveloppe avec une lettre d'instruction sur la façon dont il doit être utilisé, et nous l'envoyons à ceux que nous ne pouvons pas aller oindre. Ce que je voudrais souligner ici, c'est la question de l'utilisation appropriée des linges joints. Il n'est pas rare, en fait, je dirais même que c'est parfois la majorité des demandes qui se déroulent comme suit. L'appel arrive et dit « Pourriez-vous m'envoyer un linge joint? » « Oh, mais pourquoi? » « Eh bien, je suis malade ou autre, mais pouvez-vous m'envoyer un linge joint? » La personne n'a pas demandé une onction au ministre. Et pourtant, c'est ce que nous devrions faire. Vous et moi, lorsque nous sommes malades, nous devons demander à être oints et ensuite laisser au ministre de décider si le linge joint est approprié ou non. Donc, si vous êtes malade, il faut premièrement demander au ministre, pouvez-vous me oindre? Et s'il ne peut pas y aller, alors peut-être que M. Elliott est disponible. Ici, nous avons beaucoup de ministres qui peuvent aller vous oindre. Ce n'est pas le cas partout. Mais même ici, M. Weston s'est proposé. Il a dit, « Écoutez, si quelqu'un a besoin d'une onction et que je suis assez proche, appelez-moi. » Nous sommes tous disponibles pour une onction. Et si je ne le suis pas, ou si M. Elliott ne l'est pas, alors peut-être l'un des autres ministres sera disponible. Hier après-midi, j'ai eu le privilège de demander à l'un de mes autres ministres d'y aller. Je travaillais sur le sermon et j'ai demandé à un autre ministre, « Iriez-vous faire une onction? » Et il l'a fait, plutôt que d'envoyer un linge joint. Donc, nous devrions demander une onction et laisser le ministre décider si oui ou non le linge joint est la chose appropriée à faire. Si nous ne pouvons pas nous rendre sur place et qu'il n'y a personne de disponible, alors c'est certainement ce que nous ferons. À l'occasion, je reçois des demandes pour un linge d'onction. Et je n'insinue rien de mal ici, mais c'est comme si la personne disait « Donne-moi un linge d'onction pour que je puisse l'utiliser pour me oindre moi-même. » Nous ne nous oignons pas nous-mêmes. Nous, les ministres, nous oignons le linge, nous prions sur le linge joint. En fait, nous tenons le linge. Nous posons nos mains sur le linge et nous demandons à Dieu d'honorer cette méthode et d'appliquer les meurtrissures de Jésus-Christ et d'intervenir pour la personne en question. Mais nous ne prenons pas un linge pour nous oindre nous-mêmes, en quelque sorte. C'est un linge oint. Il a déjà été oint par le ministre. J'ai eu une demande pour une situation où la personne dit « Je dois me faire opérer lundi. » J'aimerais être oint. Ma réponse est pourquoi voulez-vous être oint? Eh bien, je veux me faire opérer. Eh bien, nous n'oignons pas pour une opération. Nous oignons un individu, comme Dieu le dit, pour la guérison. Maintenant, pour ce qui est de quelqu'un qui va se faire opérer, évidemment, nous voulons prier à ce sujet. Nous prions pour que Dieu guide tout le processus. Mais nous n'oignons pas le médecin pour que ses mains travaillent bien. L'onction est pour la guérison. Nous pouvons le faire avant l'opération ou après l'opération et demander à Dieu de prendre soin de ce qui ne va pas, de faire pour nous individuellement ce que Dieu seul peut faire, de faire pour nous ce que le médecin ne peut pas faire. Ainsi, nous faisons les choses de manière appropriée. C'est simplement une question d'état d'esprit. Nous comprenons que la chirurgie peut être absolument nécessaire, mais nous voulons que Dieu nous guérisse aussi, qu'il intervienne et fasse pour nous les choses qu'un homme ne peut pas faire. Il est clair qu'avec la technologie et la science moderne, le monde médical peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour notre bien. Et c'est certainement bien de bénéficier de cela, mais nous devons également nous assurer que nous le faisons de la bonne manière et au bon moment. La question se pose également au sujet des onctions multiples. Combien de fois puis-je être oint? Puis-je être oint plus que 3 fois? Paul demanda 3 fois au Christ d'être guéri et Christ a dit non. Est-ce une sorte de maximum absolu? Parce que sache. Alors, pouvons-nous être oint plusieurs fois? Quand devrions-nous être oint pour la 2e, la 3e, la 4e fois? Ce sont des choses que nous devons considérer. Parfois, Dieu ne guérit pas immédiatement et nos maladies durent pendant de longues périodes de temps. Et si l'un d'entre nous veut être oint au fil du temps, comme réaffirmation de sa foi, alors très bien. Nous sommes heureux de le faire et c'est approprié. Si les symptômes changent et si d'autres choses ressortent, eh bien, on doit être oint pour ces choses-là aussi. Alors oui, on peut être oint pour cela aussi. Parfois, la situation se dégrade et on veut que Dieu intervienne encore. Nous demandons à nouveau et c'est bon. Parfois, il s'agit juste de soulager la douleur. Si Dieu n'enlève pas la maladie pour l'instant, pour quelle raison que ce soit, pouvons-nous simplement recevoir une onction pour un soulagement de la douleur? Absolument. Il y a de nombreuses années à Houston, en 1972-1973, il y avait une dame de l'Église qui avait un cancer du sein. Et pendant la brève période où j'étais là, seulement 1 an, j'ai eu de multiples demandes d'elle, parfois à 1 ou 2 heures du matin, demandant à Dieu d'intervenir. Et tout ce qu'elle voulait, c'était être soulagée de la douleur. Elle ne demandait pas à être oint à chaque fois, elle voulait simplement que je prie. Elle appelait un autre des anciens à l'occasion, mais elle appelait simplement pour demander que l'on prie. Et nous faisons cela, et je pense que ce soir d'entre nous, ministre, gardons un téléphone près de nos lits. J'ai normalement le luxe de pouvoir me rendormir si je suis réveillé au milieu de la nuit, mais cela n'a pas d'importance. Nous sommes certainement disponibles pour le faire. De multiples onctions peuvent être appropriées, mais parfois, comme je le dis, il suffit d'appeler le ministre et demander que l'il prie. C'est une chose appropriée à faire. Vous pouvez aussi le demander à vos amis personnels, à votre famille. Il y a aussi un autre domaine pour lequel nous recevons parfois des demandes de prière par la congrégation, c'est pour nos proches. C'est une question de pratique. Et j'ai revu cela et j'en ai discuté avec ceux qui sont au-dessus de moi. Qu'en est-il de demander des prières pour nos proches? Si l'on prend tous les membres de nos familles, on parle d'un grand nombre de personnes. Et ce sont des gens que nous ne connaissons tout simplement pas. Nous demandons donc que les prières par la congrégation se limitent à la famille immédiate. À vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs. Et tout ceci est approprié. Nous comprenons que vous êtes vraiment très proche de cette personne malade et ce que nous demandons alors à Dieu, c'est d'intervenir dans la vie et le bien-être de cette personne en votre nom, au nom de la personne qui est dans l'Église. Nous devrions dire, « Je te demande au nom de Monsieur Untel ou Madame Untel, qui est ton serviteur, pour leur bénédiction, pour leur bénéfice, voudrais-tu, Dieu ici, intervenir pour un des membres de leur famille? » Il est certainement acceptable de demander à d'autres frères de prier personnellement pour les autres membres de votre famille élargie, mais pour ce qui est de la prière par la congrégation, nous demandons de la limiter à la famille immédiate. Puis, nous en venons au fait que Dieu ne promet pas exactement quand et comment il nous guérira. Parfois, il intervient rapidement, parfois immédiatement. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous, ministres, avons fait l'expérience où, littéralement avant que nous nous levons de nos genoux, la douleur était partie et ne revient pas. Je me souviens d'une de mes premières onctions que j'ai faites après avoir été ordonné ministre. C'était un nouveau couple. Et c'est fréquemment le cas lorsque les gens sont nouveaux dans la foi, que Dieu intervient très rapidement pour eux d'une manière puissante, parce que cela édifie leur foi. C'est un encouragement montrant qu'ils sont au bon endroit, qu'ils servent Dieu. Quand la guérison se produit rapidement, cela bâtit la foi. Et parfois, la réponse est pas tout de suite. Nous devons attendre. Attendre. Nous devons attendre un certain temps. Parfois, nous devons attendre longtemps. Dieu dit simplement pas pour l'instant. Dépendant de la gravité de la situation, cela peut être une véritable épreuve. Parfois, il peut aussi attendre pour des choses moins graves. Par exemple, quelqu'un fut loin pour qu'une verrue disparaisse. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu pendant 1 ou 2 ans. Et d'après ce que je comprends de l'histoire, la personne a juste prié en disant « Père, j'attends toujours, j'attends toujours. » Et le lendemain matin, la verrue était disparue. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des histoires similaires. Où vous allez vers Dieu et vous devez attendre. Et c'est l'une des situations où nous développons la patience et où nous construisons ce que nous appelons la persévérance en attendant que Dieu intervienne. Et cela ne vient pas tout de suite. Et comme dans l'exemple de Paul, la réponse est non. Pas dans cette vie. Dieu nous donnera un corps spirituel et toutes ces choses physiques, ces problèmes, ces maladies disparaîtront. Toutes les cicatrices de notre humanité disparaîtront. Nous voulons tous que cela arrive plus tôt que tard, mais la réalité est que Dieu ne guérit pas tout à chaque fois parce que nous avons été désignés pour mourir à un moment donné. Dieu ne guérit pas tout. Si nous sommes malades, si nous avons abusé de notre corps pendant longtemps, il ne nous donne pas un nouveau corps, n'est-ce pas? Nous devons parfois vivre avec les conséquences de ce que nous avons fait dans nos vies physiques. Que devons-nous faire à part être loin? Le vieil adage dit que la prévention est le meilleur remède. Donc, en conclusion, j'aimerais vous encourager à penser à prendre soin de votre santé, à faire les choses que vous savez être bénéfiques pour votre bien-être physique. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Il n'est jamais trop tard pour commencer de bonnes habitudes qui vont être bénéfiques pour votre bien-être physique. Évitez d'aggraver les problèmes en y ajoutant de nouveaux. Au sujet des choses que je vais mentionner, je vous encourage à lire la brochure de M. Meredith et un article de M. Winnell datant de plusieurs années, Principes bibliques pour une bonne santé. Certaines choses qui sont mentionnées dans ces articles sont les suivantes. Une bonne alimentation équilibrée, composée d'aliments naturels et frais, qui sont la meilleure source de vitamines, dont vous et moi avons besoin pour maintenir les fonctions de notre corps. Faites de l'exercice régulièrement. Parfois, dans notre société au rythme effréné, il est difficile de trouver le temps de faire régulièrement de l'exercice. Mais l'exercice est important. Sortez, prenez de l'air frais, du soleil. Vous savez, le Dr. O'Neill a mentionné ces choses à plus d'une occasion. Ayez une bonne hygiène. S'assurez de dormir suffisamment. S'assurez de se reposer suffisamment. Encore une fois, c'est un défi parfois. Mais vous et moi avons besoin, et nous y sommes encouragés par Dieu, car il veut que nous nous reposions suffisamment. L'article parle aussi de maintenir un esprit tranquille et positif. Et cela demande beaucoup d'efforts. Il faut être très discipliné pour y parvenir. De plus, nous pouvons faire des choses qui renforcent notre système immunitaire. Le Dr. Winnell y fait référence. Nous avons une brochure sur la santé qui parle de prendre des vitamines qui augmentent et renforcent notre immunité contre les diverses maladies qui existent. les vitamines A, B, C, je pense que la D3, la K2 fonctionnent en conjonction l'une avec les autres. Les suppléments sont appropriés, mais encore une fois, il faut se rappeler qu'une bonne alimentation est la meilleure façon d'obtenir les choses dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Ainsi, Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés. Et s'il nous pardonne nos péchés et nous guérit, il s'attend à ce que nous changions notre vie et que nous nous repentions et que nous commencions à faire des choses qui sont positives. Donc, pour conclure, j'aimerais vous lire quelques passages de la brochure du Dr Meredith. Dieu guérit-il de nos jours? Il parle de trouver notre équilibre à la page 16. À la page 16, il y avait beaucoup de choses que les médecins et les dentistes peuvent et devraient souvent faire pour nous. Dans certains cas, comme pour des blessures, des os brisés, des hémorragies internes et des brûlures graves, il y a des choses nécessaires et justes que les médecins sont capables de réaliser. Tout ce que l'homme tente de faire pour son semblable n'est pas forcément mauvais. Il est certain que beaucoup de professionnels de la santé aident des millions de gens chaque jour. N'oublions pas cela. Beaucoup de spécialistes de la santé exercent leur métier avec dévouement et sincérité pour soulager leurs prochains. Ils méritent d'être appréciés et cités pour ce qu'ils font. D'un autre côté, à notre époque moderne, une grande partie de la société ignore Dieu et va à l'autre extrême, en laissant le Dieu vivant complètement en dehors du portrait. Nous ne voulons pas faire ça, mais il souligne que tout vrai chrétien doit trouver son équilibre sur cette question. Et ensuite, à la page 23, il est écrit « Le véritable chrétien impliquera Dieu dans tous les domaines de sa vie quotidienne, y compris la guérison. En cas de maladie, chaque véritable chrétien doit implorer Dieu pour sa propre guérison, celle de ses enfants ou celle de ses bien-aimés. Ensuite, en fonction de son degré de compréhension et de foi, il réfléchira à la décision de recourir ou non à l'assistance d'un médecin ou d'un professionnel compétent. Et même, dans ce cas, il devrait demander avec ferveur que Dieu intervienne en amont, au-delà de ce qu'un homme est capable de faire. Dieu est notre guérisseur. C'est lui qui a promis de prendre soin de nous et de nous délivrer de nos afflictions physiques, au point que le Christ était prêt à mourir et à souffrir. Peut-être plus que vous et moi ne pouvons le comprendre, souffrir physiquement, afin que nous puissions être guéris. Le Christ a fait plusieurs milliers de guérisons. Quand et comment il le fera sera selon sa sagesse et sa volonté. Revenons à Psaume 116. Psaume 116, versets 12 à 14. Nous revenons au point des bienfaits de Dieu. L'un des grands bienfaits de notre appel est que Dieu est notre guérisseur. Verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux faire en réponse à ces multiples bénédictions que Dieu m'accorde, dont la guérison? La réponse, verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je le servirai et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. » Nous avons fait une alliance avec Dieu. Lorsque vous et moi avons été baptisés, nous avons fait une alliance selon laquelle nous serions les serviteurs de Dieu pour le reste de notre vie. Nous ferions de notre bien pour adhérer à ses lois, le servir, servir son œuvre, servir son peuple. Il dit, alors qu'est-ce que je peux faire pour remercier Dieu? Que puis-je faire en réponse aux nombreux bienfaits de Dieu, dont la guérison? J'accomplirai mes vœux, je respecterai mon alliance et je lui obéirai. Et je ferai cela en présence de tout son peuple. En nous aidant et en nous encourageant les uns les autres, nous avons la possibilité de faire exactement cela. Ainsi, servir Dieu, c'est une façon de le remercier pour l'un des grands bienfaits que nous avons reçus, soit la promesse d'être notre guérisseur.